Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
La parole de Dieu apporte une véritable espérance dans notre monde tourmenté. C'est pourquoi nous vous exhortons à vous tourner vers le Seigneur Jésus, qui seul a le pouvoir de combler les cœurs.
Aujourd'hui, Yann et son invité Alain vont nous parler du livre de Job.
La dernière fois, nous avons parlé d'un homme appelé Job, rencontré dans la Bible. C'était un homme droit et pieux, qui fut un jour plongé dans la souffrance suite à une terrible épreuve. Ce livre biblique aborde, à travers son histoire et ses conversations avec ses amis, les thèmes de la souffrance de l'innocent et de la foi au sein même de l'épreuve. Ces questions restent d'actualité aujourd'hui.
Oui, nous avons survolé le livre de Job en expliquant le point de vue de Job et de ses amis. Cependant, ce livre nous révèle une autre perspective ignorée d'eux. C'est un entretien entre Dieu et Satan qui a eu lieu dans les lieux célestes. Commençons donc avec la lecture de quelques versets au début du livre de Job.
Un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu donc ? » Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme droit et intègre, un homme qui révère Dieu et qui évite de faire le mal. » Satan lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu ? N'as-tu pas élevé un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à Satan, « Tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. »
Job ignorait donc cet entretien, et nous avons appris la dernière fois que suite à une série de catastrophes qui l'ont affligé, Job a tout perdu, tous ses troupeaux comme tous ses enfants. Il commença alors une période de deuil durant laquelle il déclara « Je suis sorti nu du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. » Ainsi, l'attitude de Job face à l'épreuve prouve que la parole de Dieu est vraie et digne de confiance. Mais que s'est-il passé ensuite dans les lieux célestes? Écoutons ce que dit la Bible. Elle parle d'un nouvel entretien entre Dieu et Satan.
L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. » Mais Satan répondit, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais porte donc la main sur son corps, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » L'Éternel dit à Satan, « Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. »
Nous savons par la suite qu'à cause de Satan, Job fut affligé d'une terrible maladie de peau, et que même s'il n'a pas maudit Dieu directement, il a maudit le jour de sa naissance, il a regretté d'être en vie. Il a exprimé des sentiments négatifs et a adressé à Dieu ses interrogations. De vives discussions ont été échangées entre lui et ses amis sur le pourquoi de ces épreuves. Vous avez dit que Job, comme ses amis, ignorait tout de l'entretien qui avait eu lieu entre l'Éternel et Satan. Mais quelle lumière cet entretien apporte-t-il aux dilemmes et aux interrogations de ces hommes ?
D'abord, cet entretien montre qu'il existe un monde spirituel que nous ne voyons pas et que ce monde est habité, entre autres, par des esprits qui s'opposent à Dieu et qui désirent faire du mal aux hommes, notamment à ceux et celles qui croient en l'Éternel. Nous ignorons ce qui se passe dans les lieux célestes, mais les textes lus aujourd'hui nous enseignent que les démons peuvent être responsables de certaines épreuves que nous traversons.
Nous apprenons que Satan, cet esprit dont le nom signifie « l'accusateur », doit demander à Dieu la permission d'éprouver Job. Cela peut se prendre.
Oui, certains peuvent être surpris d'apprendre que le pouvoir des esprits est ainsi limité. Cependant, la Bible affirme que c'est Dieu qui est tout-puissant et non Satan ou aucun autre esprit. L'Éternel est souverain, il maîtrise tout, il peut tout. Et si l'on pense être victime de l'action de démons, c'est à Dieu qu'il faut chercher du secours au nom de Jésus, tout en lui demandant pardon pour ses péchés. Car dans les évangiles, nous apprenons que Jésus a reçu tout pouvoir pour arrêter l'action de ses esprits sur une personne. C'est donc à Jésus qu'il faut s'adresser, et non à un autre.
Admettons donc que Dieu est tout-puissant, qu'il peut limiter le pouvoir de Satan. Alors pourquoi permet-il à ce dernier d'éprouver Job ?
Nous avons lu que Satan est venu auprès de l'Éternel pour mettre en doute sa parole. Job est pieux parce qu'il n'est pas éprouvé. Même si les motivations de Satan sont tout à fait méchantes, Dieu va lui prouver qu'il se trompe.
Et de quel enjeu est-il question ?
Satan accuse Job d'avoir une foi intéressée. Satan affirme qu'il est trop facile de croire en Dieu lorsqu'on a une vie facile. Il met en doute les bonnes intentions et motivations de Job et suggère que s'il est pieux et respectable, c'est afin d'obtenir de Dieu une vie aisée et protégée. Selon Satan, si Job perdait tout ce qui contribue à son bonheur, il ne bénirait plus Dieu, bien au contraire, il le maudirait.
Et qui a eu raison ?
Lorsque nous lisons le livre de Job, nous ignorons jusqu'à la fin quel va être son dernier mot. Job maudit beaucoup de choses, mais il ne maudira jamais Dieu. Job exprime beaucoup d'émotions, il a des doutes, il ne comprend pas pourquoi tout cela lui arrive. Toutefois, Job ne renonce jamais entièrement à sa foi. Il garde l'espoir que Dieu interviendra. Vers la fin du livre, Dieu fait des reproches à Job car certains de ses propos n'étaient pas fondés. Toutefois, Dieu le justifie, car malgré ses doutes et ses luttes intérieures, Job met son espérance en l'Éternel. Il a ainsi prouvé qu'il n'avait pas une foi intéressée. On peut aussi constater que Satan ne vient plus auprès de l'Éternel pour accuser Job. Sait-il qu'il a perdu ?
Et quelles leçons essentielles pouvons-nous donc tirer de l'enseignement d'aujourd'hui ?
D'abord, ce livre soulève une question fondamentale. Pourquoi servir l'Éternel ? Pourquoi vivre à la lumière de la parole de Dieu ? Pourquoi croire en Dieu ? Je crains que pour beaucoup, les accusations portées contre Job s'avèrent vraies. Beaucoup s'intéressent à la foi simplement parce qu'ils désirent obtenir quelque chose de Dieu. Une bonne santé, la réussite professionnelle, beaucoup d'argent. Et malheureusement, quand ces personnes constatent qu'après tout, la vie avec Dieu n'est pas forcément facile, que certaines épreuves demeurent, alors beaucoup d'entre elles abandonnent la foi et maudissent Dieu.
Pourquoi donc servir Dieu ?
Dieu est digne de notre adoration et de notre reconnaissance pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il donne. Dieu reste notre Créateur et notre Rédempteur, quelles que soient les circonstances que nous traversons, et nous devons le craindre, l'aimer pour cela. Dieu peut parfois mettre notre foi à l'épreuve en permettant que nous vivions des drames et des difficultés. Cela peut être un test pour nous, pour voir si notre foi est une foi authentique ou une foi intéressée.
Mais qu'apprenons-nous de la présence de Satan dans le livre de Job ?
Sa présence nous rappelle qu'il demeure un combat dans les lieux célestes entre Dieu et Satan. Parfois, Satan peut s'acharner contre nous. Nous devenons l'enjeu d'un conflit spirituel et nous pouvons vivre des moments très durs. Mais si c'est ce que vous vivez aujourd'hui, soyez assurés de deux choses. Tout d'abord, l'Éternel est tout-puissant et il limite le pouvoir de Satan. Ensuite, tous ceux qui ont une foi authentique verront un jour, tout comme Job, la fin de leurs épreuves et ils entreront dans la plénitude des bénédictions de Dieu.
Dans un instant, Jean-Marc va poursuivre ses méditations sur Christ et son amour pour nous. Mais d'abord, Hélène va lire dans Éphésiens chapitre 3, les versets 17 à 19.
Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu.
Jetant un regard sur l'amour de Jésus-Christ, nous parlons de la largeur, la longueur, la hauteur, et la profondeur de cet amour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la hauteur de son amour. Dans cette même lettre adressée à l'église d'Éphèse, Paul dit que Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Sans Christ, nous ne pouvions descendre plus bas. Avec Christ, nous sommes élevés on ne peut plus haut, c'est-à-dire qu'en lui, nous jouissons d'une position hautement privilégiée. À titre d'illustration, dans certains pays, ceux qui s'opposent au gouvernement sont emprisonnés et parfois torturés. Il est difficile d'imaginer pire dans la vie. Imaginons alors qu'advienne un changement de gouvernement, que ces prisonniers politiques retrouvent la liberté et que peut-être certains soient nommés ministres. Ils jouiront ainsi d'énormes privilèges et nous pouvons dire qu'ils seront montés d'un seul coup du plus bas de l'échelle jusqu'au sommet. Christ est le Seigneur libérateur. Il lève la condamnation qui pèse sur chacun de nous à cause de notre opposition à Dieu. Il nous délivre des puissances spirituelles qui nous opprimaient, les démons, le péché, la mort. Et il nous accorde des privilèges merveilleux, des privilèges célestes. Quels sont-ils donc? D'abord, nous avons libre accès à la présence de Dieu par la prière. Peu de gens ont l'occasion d'être reçus par le président du pays afin de s'entretenir avec lui et d'exprimer leurs soucis. Que cela arrive une seule fois dans la vie, on s'en réjouira beaucoup. Notre privilège céleste consiste en ceci. Le roi est créateur de l'univers, se tient disposé à nous accueillir dans sa présence à n'importe quel moment de la journée, où que nous soyons. Nous pouvons nous entretenir avec Dieu dans l'assurance qu'il nous écoute, qu'il nous regarde avec compassion et miséricorde, et qu'il peut tout nous accorder du moment que cela correspond à sa volonté. Ensuite, nous avons à notre disposition la sagesse divine. Dieu nous parle par sa parole, la Bible. Enfin, nous avons la promesse de la résurrection pour la vie éternelle. Cette espérance vivante nous permet de persévérer. Le temps écoulé ne nous permet pas d'en dire davantage sur toutes les bénédictions que Christ nous a données par amour. Cependant, si vous avez reçu de Christ son salut, je ne peux que vous encourager à saisir et à jouir avec reconnaissance de tous les hauts privilèges qu'il vous a accordés. Il serait dommage de vous en priver.
Nous remercions Jean-Marc de nous avoir rappelé à quel point nous sommes si précieux aux yeux de Dieu.
Nous avons appris aujourd'hui que Satan peut exercer toutes sortes de tentations et d'épreuves contre ceux qui aiment le Seigneur. Mais soyez rassurés, jamais il ne pourra nous séparer de l'amour de Christ.
À présent, je vous dis au revoir.
À bientôt et que Dieu vous bénisse.